France Culture.
Peu de territoires auront autant prétendu ces 40 dernières années apparaître comme le lieu des utopies. C'est de la Silicon Valley au désert de l'Ouest américain que l'artiste Stéphanie Solinas a imaginé et réalisé un road trip en forme d'itinéraire pour devenir soi-même. Elle nous rejoindra en deuxième partie d'une émission consacrée à l'utopie d'Internet, ou plutôt à la manière dont des contestations se revendiquant de cette utopie ont, bien paradoxalement, souvent ouvert la voie à ceux que l'on nomme aujourd'hui les GAFAM, ces géants de l'Internet.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Et dans la rubrique Actualité en fin d'émission, c'est l'avocat et vice-président de la Ligue des droits de l'homme, Arié Halimi, qui nous rejoindra pour parler d'une semaine un peu spéciale organisée à l'Odéon Théâtre de l'Europe avec la Ligue des droits de l'homme autour du spectacle de Lorraine de Sagazan, Léviathan. On détaillera cette semaine riche en débats pour laquelle France Culture est d'ailleurs partenaire. Bonjour Sébastien Broca.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à Paris 8. Et vous publiez dans la collection Libère au Seuil, Pris dans la toile de l'utopie d'Internet au capitalisme numérique. Ça fait partie de ces quelques livres, il n'y en a pas tant que ça, qui nous permettent de comprendre cette histoire encore assez récente, une histoire qui va vite, une histoire mouvementée. Votre livre a aussi le grand mérite d'être écrit jusqu'à maintenant, jusqu'à 2025, et la réélection de Donald Trump en particulier, avec le soutien apporté par certains des présidents de ces grandes sociétés de la tech à Donald Trump, contre toute attente, alors qu'ils avaient, pour beaucoup d'entre eux, soutenu jusque-là les démocrates. C'est d'ailleurs un élément d'actualité que peut-être votre livre permet de comprendre en retraçant cette histoire depuis les années 1980, surtout le début des années 1990. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne faites pas l'histoire des GAFAM, vous faites l'histoire de la critique des GAFAM. Et une histoire compliquée parce que vous montrez à quel point ces critiques sont précieuses, elles ont pu enrichir le débat public notamment, et puis la connaissance, mais elles ont également, sans s'en rendre compte, à leur insu la plupart du temps, permis des brèches, permis des ouvertures, permis des avancées assez considérables. Comment vous est venue l'idée d'approcher le sujet de la sorte, en parlant des critiques plutôt que de ce qu'il y avait en première instance, en quelque sorte?
Je crois que j'ai toujours été intéressé dans mon travail par le fait de me demander comment et sur quelle base peut-on effectivement critiquer notre monde numérique et les grandes entreprises qui l'incarnent. Et en même temps, ce livre, effectivement, peut-être contribue à remettre en cause une vision un peu dichotomique qui serait l'idée que d'un côté, on aurait ces grandes entreprises technologiques, très décriées depuis maintenant quelques années, et de l'autre côté, des mouvements contestataires ou des critiques qui seraient vraiment dans un rapport antagoniste. Et l'histoire que je raconte, elle est un peu plus compliquée que cela, et peut-être quelque part, on pourrait dire qu'elle part d'un étonnement presque d'ordre géographique. En tout cas, c'est comme ça que le livre commence, qui est de se rendre compte que lorsqu'on pense aujourd'hui aux principales alternatives aux grandes entreprises technologiques, donc les Google, les Meta, les Amazon, Microsoft, Apple, on pense souvent à des projets comme Wikipédia, des logiciels libres comme Linux ou Firefox, des messageries comme Signal, et tous ces projets dépendent de grandes fondations à but non lucratif. Donc en cela, effectivement, c'est une incarnation d'une vraie différence par rapport aux Big Tech ou aux GAFAM, mais ce qui est étonnant, c'est que ces fondations sont toutes installées sur ce même territoire, soit à San Francisco, soit à la Silicon Valley, donc effectivement tout contre la Silicon Valley qu'elles entendent combattre. Et à partir de ce constat...
Alors même qu'il s'agit d'entreprises globales par définition, pour lesquelles le territoire n'est pas forcément nécessairement pertinent, en fait.
Tout à fait. Alors, d'une part, effectivement, on a beaucoup eu ce cliché dont on est un peu revenu, mais selon lequel Internet et le numérique feraient disparaître l'importance de l'espace et du territoire, ce qui n'est pas vrai. Et par ailleurs, ce qui est effectivement très frappant, c'est que on pourrait dire que les alternatives globales, parce qu'il ne s'agit pas simplement des États-Unis, mais quasiment d'alternatives globales au pouvoir des big tech, viennent d'un territoire où sont installées dans un rayon vraiment de quelques kilomètres autour de ces grandes entreprises qu'elles entendent contester. Et donc, à partir de ce constat, voilà, j'ai voulu refaire depuis, donc, comme vous l'avez dit, le début des années 90, l'histoire de ces utopies liées à Internet, mais donc l'histoire aussi de ces contestations, de ces critiques des big tech, pour montrer que certaines d'entre elles, en tout cas, pas toutes, hein, mais certaines d'entre elles avaient été intégrées, récupérées par ce qu'on pourrait appeler le capitalisme numérique, et qui avaient donc, en fait, de manière paradoxale, une forme de symbiose entre ce capitalisme numérique et celles et ceux qui ont prétendu le contester depuis une trentaine d'années.
Alors, vous l'avez fait dans une perspective comparée aussi. Évidemment, la part belle est faite à la situation américaine, parce que vous venez de l'expliquer, au fond, cette concentration territoriale fait qu'on ne peut pas ne pas regarder d'abord en priorité ce qui s'est passé là. Mais malgré tout, il y a un contre-champ, un contrepoint français qui permet de voir les rapprochements, mais aussi les vraies différences. Le rôle aussi nettement moindre, évidemment, de la critique sur le territoire français face à ces géants. Et puis, au fond, vous intéressez à des tas de questions différentes. On n'aura pas le temps en une demi-heure de revenir sur chacun de ces débats critiques. Ils sont extrêmement riches, denses, mais vous vous intéressez à la question de la liberté d'expression, à la question du monopole, à la question des data, à la question du travail, à la question de l'écologie. Ça fait énormément de choses. On va revenir sur certaines. Mais surtout, vous replacez ça dans une histoire dont je disais qu'elle a déjà commencé à être faite, notamment par Fred Turner, qui est venu en parler dans cette émission quelques fois, par Olivier Alexandre récemment aussi, qui a continué, etc. Mais vous la reprenez sur ces moments importants. On va voir que ça va rejoindre l'enquête de Stéphanie Solinas tout à l'heure, parce que dans son livre L'être plus, on découvre assez rapidement la présence de Barlow, de John Perry Barlow, avec cette fameuse déclaration d'indépendance qui au fond est peut-être marque le début de quelque chose. Évidemment, c'est la fin d'une histoire, celle de la contre-culture américaine californienne, mais c'est le début de ce qu'on connaît après, c'est-à-dire la phase numérique de tout ça. Peut-être on pourrait revenir de ce moment-là, de cette fameuse déclaration 1995. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites qu'en France, on vous citez quelqu'un qui dit qu'en France, on ne prend pas vraiment la mesure de ce qui se passe à ce moment-là.
Oui, alors. Peut-être déjà, j'imagine que tout le monde ne sait pas forcément qui est John Perry Barlow. Donc John Perry Barlow, c'est une personnalité intéressante puisque c'était le parolier du groupe The Grateful Dead, donc un groupe emblématique de la musique psychédélique ou de la vague hippie californienne dans les années 60. Et puis ensuite, donc il s'est intéressé très tôt au réseau, à l'informatique et au numérique. Et avec donc Mitch Kapor, qui lui vient vraiment de l'industrie informatique, il fonde en 1990 l'Electronic Frontier Foundation, qui est la première ONG qui s'occupe de défendre ce qu'on va appeler les libertés numériques et qui va devenir l'organisation la plus influente qu'il est encore aujourd'hui.
C'est l'acteur central de votre livre.
C'est un acteur vraiment effectivement très très important dans mon ouvrage. Et à partir de là, donc John Perry Barlow va devenir un militant de ces causes de l'internet libre pour défendre la liberté d'expression en ligne, la protection des données, l'innovation, la concurrence, avec vraiment plutôt un agenda progressiste libéral. Vous avez mentionné un texte qui est très important pour comprendre les contre-cultures numériques, qui est la Déclaration d'indépendance du cyberespace, qui est un texte alors qu'il rédige, il raconte qu'il le rédige en une nuit, un peu fiévreusement, alors qu'il est à Davos, au Forum mondial. Donc, ce qui montre aussi que c'est quelqu'un qui est déjà très très installé, hein, qui n'est pas un outsider.
Il est déjà voilà. Tout contre.
Et ce texte, pourquoi il est important? Parce qu'il décrit en fait le cyberespace comme un espace à part dans lequel notamment le droit ne devrait pas s'appliquer où les États n'auraient pas leur mot à dire, où leur souveraineté serait dépassée.
Il faudrait remplacer le droit par l'éthique, en gros.
Exactement, c'est un espace qui devrait s'auto-réguler, qui pourrait et qui devrait, parce que les deux sont mêlés, qui devrait s'auto-réguler par l'éthique et il y aurait une sorte d'inutilité, mais aussi d'illégitimité des États à venir se mêler finalement de ce qui se passe au sein de cet espace. Alors bon, quand on reprend ça maintenant, ça peut paraître presque délirant peut-être. Et en même temps, ça dit quelque chose de la manière dont ces contre-cultures numériques se sont vraiment construites dans un refus de la manière dont l'État, y compris par des formes démocratiques, en tout cas par les formes de la démocratie représentative, allait pouvoir réguler, réglementer l'innovation technologique et aussi ce qui se passait en ligne. Alors évidemment, voilà, cette utopie d'une absence de l'État a échoué, mais quelque part, et c'est aussi ça que je raconte dans le livre, elle a aussi ouvert des brèches qui ont parfois servi les big tech. Et voilà, c'est un peu ce que je raconte dans le livre, c'est que c'est comment les idéaux des uns, finalement, ont servi les intérêts économiques des autres, notamment pour refuser un certain nombre de réglementations des technologies numériques.
C'est particulièrement édifiant s'agissant de la liberté d'expression. Ce qui est intéressant dans la façon dont vous écrivez l'histoire et vous la racontez, j'allais dire, parce que le livre assume cette perspective narrative, au fond, c'est... qu'il s'agit d'une histoire qu'on peut pas raconter à coup de table rase, de nouveaux chapitres qui effacent tout. En fait, c'est un empilement. On peut remonter très loin. Vous êtes remonté simplement aux années 70 pour les choses les plus anciennes. Mais en fait, il y a des histoires derrière qui font écho. On le sait, les débats au moment de l'invention de la radio font beaucoup écho à ce qui s'est passé avec l'Internet. On pourrait remonter plus tôt dans les années 1830 avec la presse ou les lois de la fin du 19e siècle. Et en fait, il y a aussi des vraies innovations technologiques. C'est-à-dire que l'un des enjeux, moi, ça m'a frappé en vous lisant, c'est de voir comment on caractérise et quelles sont les batailles pour caractériser ces nouveaux outils, au fond, qui sont inventés, que sont les plateformes ou que sont les éditeurs. C'est-à-dire que, au fond, on peut pas tout à fait appliquer. En tous les cas, des acteurs ne veulent pas qu'on applique le droit de la presse classique et donc qu'on tienne pour responsable, directeur de la publication, ces plateformes. Et d'un autre côté, on peut pas non plus les considérer comme des tuyaux parfaitement neutres. Et au fond, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire qu'on est face à des acteurs véritablement nouveaux qui rentrent ni dans l'une ni dans l'autre des cases anciennes dont on disposait. Et donc, toute la bagarre va consister à inventer un cadre juridique. Et c'est là qu'on voit, au fond, que la critique et les big tech vont marcher main dans la main pour inventer cette espèce de troisième voie, au fond, qui est celle qui prévaut aujourd'hui, Sébastien Broca.
Oui, alors tout à fait, et un moment important pour illustrer ce que vous venez de dire, c'est et c'est là aussi qu'on voit que finalement beaucoup de débats actuels en fait ont des racines très très anciennes, et moi je remonte pas si loin que ça, hein. Je remonte aux années 80-90, mais déjà là on voit qu'il y a plein de choses qui se mettent en place en fait dès les années 90, et une de ces choses c'est la question qui se pose très rapidement dès que le web commercial se développe, c'est de savoir est-ce que toutes ces entreprises qui fournissent aux autres, aux internautes, des moyens d'expression, par exemple une entreprise qui va permettre à des gens de s'exprimer sur un forum. La question qui se pose dès le milieu des années 90, c'est est-ce que cette entreprise va être responsable des propos éventuellement délictueux qui vont être tenus par ses utilisateurs. Et les États-Unis répondent assez vite à cette question-là par une loi de 1996, enfin par un amendement pardon au Communication Decency Act qui s'appelle la section 230. Et cette section 230 dit deux choses. Elle dit que ces nouveaux acteurs du web ne sont pas responsables des propos qui sont tenus par leurs utilisateurs, mais elle dit aussi qu'ils ont le droit de modérer ces propos, éventuellement d'en supprimer certains, enfin voilà, qu'ils ont donc une liberté éditoriale, mais sans les responsabilités qui accompagnent traditionnellement cette liberté éditoriale pour les grands médias. Donc il y a effectivement une sorte de régime d'exception, de particularisme lié aux plateformes Internet qui se créent et qui ensuite va servir les intérêts des grands réseaux sociaux commerciaux que nous connaissons toutes et tous, Facebook et les autres, parce que ça va leur donner à la fois une latitude très grande pour modeler les discours pour et parfois en censurer certains, mais surtout organiser leur diffusion comme ils le souhaitent, tout en voilà les dégageant de toutes ces responsabilités juridiques. Donc c'est un régime qui a été très favorable aux grandes entreprises de la tech et qui a été toujours soutenu par les militants des libertés numériques, et c'est là que se noue cette sorte de partenariat étrange, parce que très tôt, les militants de liberté numérique, et notamment l'Electronic Frontier Foundation, dont je parlais tout à l'heure, va dire que la section 230 est le pilier de l'Internet libre, et que si jamais on rend les grandes plateformes responsables des propos tenus par leurs utilisateurs, ça va être une catastrophe pour la liberté d'expression, parce que ces entreprises vont censurer préventivement tout un tas de discours pour se couvrir juridiquement, pour être sûr de ne pas être tenu responsable. Donc en fait, on a un encadrement juridique de la liberté d'expression en ligne qui est très favorable aux intérêts économiques des big tech et qui en même temps va être beaucoup défendu, avec des arguments qui sont assez justes, hein, mais vraiment pour des raisons militantes, en tout cas pour défendre la liberté d'expression en ligne.
Ce qui frappe à la lecture de votre livre aussi, c'est... quelques années après simplement. C'est ce qu'on interprète aujourd'hui assez facilement, et c'est pas pour jeter la pierre à ces gens, parce qu'ils sont dans le brouillard, ils sont dans quelque chose qui apparaît à ce moment-là. C'est des formes de naïveté néanmoins aujourd'hui sur la liberté d'expression, c'est l'incapacité à penser ces lieux comme étant des lieux tels qu'on les connaît aujourd'hui, des lieux dans lesquels la haine se déverse en ligne, d'une part. Naïveté aussi quant à, et c'est un autre chapitre, sur la question des monopoles ou la question des biens communs. Naïveté quant au fait que des médias, ça peut pas forcément vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi, et que le gratuit, la publicité n'est pas forcément la solution. Il a fallu reconstruire, par exemple, l'abonnement payant pour du journalisme de qualité, après une dizaine d'années où ces habitudes avaient été détruites dans une sorte de main dans la main entre ces géants de la big tech d'un côté et puis des militants de gauche un peu idéalistes de l'autre, en fait, des gens pour l'open access qui pensaient sincèrement qu'on pouvait construire un espace médiatique où tout serait gratuit et où on pourrait s'informer comme ça, miraculeusement, quelque sorte, Sébastien Broca.
Oui, quelques éléments sur les deux aspects. Sur le premier aspect, l'aspect de la liberté d'expression en ligne, vous avez parlé de naïveté. C'est un peu péjoratif, mais il me semble que c'est pas totalement faux, au sens où pendant longtemps, la plupart des gens étaient persuadés qu'il allait y avoir une sorte d'autorégulation vertueuse de la parole en ligne. Et que si quelqu'un disait des choses absolument scandaleuses ou fausses, finalement, voilà, comme assez naturellement, les choses allaient s'autoréguler.
Il y avait quelque chose de presque habermasien dans cette conception. Un espace public rationnel finirait par émerger.
C'est aussi ce que disait John Stuart Mill. Hein, le débat contradictoire se régule spontanément lorsqu'il est libre. Et il y avait un peu cette idée-là sur Internet pendant longtemps. Et ça a commencé à changer, pour le dater grossièrement, au milieu des années 2010, quand on s'est aperçu qu'en fait, cela ne fonctionnait pas et qu'on s'est mis à parler beaucoup plus à la fois des discours de haine, du cyberharcèlement, des questions de désinformation et de fake news. Et là, ce qui est compliqué à ce moment-là pour les progressistes, et notamment aux États-Unis, c'est que donc il y a ces enjeux qui émergent, mais à qui est-ce qu'on va demander de faire le ménage, entre guillemets, en ligne et de régler ces problèmes de désinformation et de haine en ligne? Eh bien, au big tech, à ces grandes entreprises qui contrôlent l'espace public en ligne. Et donc, de manière un peu paradoxale, sous le très bon prétexte, hein, encore une fois, de lutter contre le cyberharcèlement et les informations, on va en fait renforcer le pouvoir des big tech de contrôler ou d'orienter l'espace public en ligne. Donc bon, ça c'est effectivement un des paradoxes que vous mentionnez. Et le deuxième, ce que vous disiez sur la question des monopoles, de l'accès gratuit à l'information, me faisait penser à une photo sur laquelle je suis tombé récemment. C'est une photo qui est prise en 2005, qui est la photo de la première promotion de l'accélérateur Y Combinator. Alors Y Combinator, c'est un acteur très connu dans la Silicon Valley, hein, qui finance par le capital risque des startups à un niveau très précoce de leur développement. Et donc cette structure se crée en 2005, et dans la première promotion de Y Combinator, il y a c'est quasiment des adolescents, ou des post-adolescents qui sont côte à côte. D'un côté, il y a Sam Altman, qu'on connaît bien aujourd'hui, évidemment avec OpenAI, et à côté, il y a quelqu'un qui est un peu moins connu, mais qui l'est quand même relativement, qui est Aaron Swartz. Aaron Swartz, c'est quelqu'un qui a été un militant de l'Internet libre, de la culture libre, qui a participé aux licences Creative Commons, à diverses actions militantes pour défendre justement la circulation du savoir et de la connaissance en ligne. Et en voyant cette photo, je me suis demandé, bon, est-ce que finalement c'est fortuit que ces deux personnes aient été côte à côte à un certain moment de leur vie, ou est-ce que ça dit quelque chose de plus profond? Et en fait, je pense que ça dit quelque chose de plus profond, qui est effectivement la manière, et on le voit bien aujourd'hui avec les développements de l'intelligence artificielle, c'est la manière dont toutes ces belles idées, encore une fois, ce sont des idées très importantes, qu'il faut que le savoir et l'information circulent en ligne, et que parfois la propriété intellectuelle est une entrave insupportable face à ces idéaux, mais en même temps, ces idées-là, aujourd'hui, à qui elles profitent? Elles profitent aussi à ces grandes entreprises qui ont besoin de pouvoir capitaliser sur toutes ces informations, ces connaissances, ce savoir disponible en ligne pour entraîner leur modèle et finalement renforcer leur pouvoir.
Autre exemple, Sébastien Broca, qui m'est venu à l'esprit en vous lisant à propos dans le chapitre consacré aux, enfin les chapitres consacrés aux données, en fait, des formes de réponse à la question du danger à voir la vie privée, une certaine conception de la vie privée menacée par cette économie des données, au fond, qui est quelque chose de nouveau, véritablement, ça a été la réglementation, la régulation. Alors là, on On se déplace en Europe, c'est même pas en France, avec ce fameux règlement général pour la protection des données, le RGPD, qui est une directive européenne, enfin qui a valeur de loi européenne et qui est donc inscrit dans le droit en France, par exemple. Moi, ça fait assez longtemps que j'ai le sentiment, au fond, que cette disposition, elle sert davantage la big tech que les petits acteurs économiques, parce que on voit bien que l'effet numéro un sur les internautes du RGPD, c'est le fait, par exemple, pour beaucoup de gens, de croire que le plus précieux du plus précieux, leur cassette, au fond, c'est leur adresse email, et que il faut pas leur voler leur adresse email, on peut pas leur écrire. Alors qu'en fait, le mail est quelque chose qui reste relativement sain. Comparé au web, dans le monde de l'Internet. D'abord, peu de gens savent que le mail et le web, c'est pas la même chose. Tout ça, c'est la même infrastructure, l'Internet, mais c'est pas la même chose. Et le protocole qui permet de communiquer par mail, il est beaucoup plus décentralisé, même si Gmail est apparu et qu'il y a des manières pour le web de reprendre le contrôle du mail. Mais malgré tout, et donc, en fait, on connaît tous des gens qui se baladent avec tous leurs cookies ouverts partout, qui sont traqués dans tous les sens, mais qui veulent surtout pas donner leur adresse email. Et là, on a un exemple de contre-productivité totale de ce type de disposition, parce qu'au fond, le mail est le seul outil dont on dispose pour créer des publics, y compris quand on est une petite organisation, et pour résister face aux réseaux sociaux, pour moins dépendre d'eux, par exemple, inventer des data walls plutôt que des walls qui marchent avec des cookies, s'agissant des médias. Sébastien Broca.
Oui, alors sur ces questions de protection de données personnelles, et donc notamment le RGPD que vous avez mentionné, bon, c'est vrai qu'on est en Europe aujourd'hui, l'espace dans le monde le plus avancé sur ces questions de réglementation des données personnelles et de protection de celles-ci. Et malgré tout, bon, je ne suis pas juriste, hein, mais ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que une réglementation comme celle-là, mais d'autres également, sont fondées sur ce qui m'apparaît comme une sorte de, là aussi peut-être de naïveté ou d'illusion, qui est la capacité de chaque individu à contrôler les informations et les données qu'il veut rendre publiques et celles qui
à mettre les bons réglages au fond.
Voilà. Et donc, bon, c'est ce que nous expérimentons en toutes et tous, hein, lorsqu'on nous demande de consentir entre guillemets, parce qu'effectivement. Enfin, donc à consentir à l'utilisation de nos données. Et pourquoi est-ce que je dis consentir entre guillemets? Parce que ce consentement me semble un peu vicié dès l'origine, parce que on ne sait pas très bien à quoi l'on consent. Personne ne sait précisément à quoi vont servir, enfin, quelles données vont être récoltées, à quoi elles vont servir, combien de temps elles vont être stockées, quand elles seront détruites, si elles le sont. Bon, voilà. Personne ne sait tout ça. Et donc, on a maintenu cette fiction d'un individu rationnel, responsable, capable de décider qu'est-ce qu'il voulait faire et interdire en ce qui concerne l'utilisation de ces données. Et en fait, c'est une fiction totale. Et quelque part, c'est un autre problème qui est lié à celui-ci, c'est le... Je pense que la protection de données personnelles est fondée sur une sorte d'analogie avec ce qui se passe lorsqu'on met, par exemple, des photos de nous en ligne. Là, effectivement, on a une incitation qui est assez forte à ce qu'on n'a pas envie que des photos privées ou intimes soient au vu au-dessus de tout le monde ou que notre employeur puisse les voir. Les données personnelles, c'est beaucoup plus abstrait, c'est-à-dire qu'on ne... On ne ressent pas directement, enfin, sauf cas très particuliers, de préjudice ou de souffrance liée au fait que nos données personnelles ont été divulguées, récupérées par tel ou tel acteur. Et donc, là encore, donner à l'individu toute la responsabilité de protéger ses données, il me semble que c'est un peu illusoire. En fait, ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, ce que je défends plutôt, c'est des réglementations qui interdiraient certaines formes de récolte et d'usage des données plutôt que de faire comme si l'individu pouvait souverainement décider de ce qu'il convient de faire avec ses propres données.
Cette question des données, mais d'autres aussi, les questions de monopole, les questions de liberté d'expression, enfin, toutes les questions qui sont dans votre livre, permettent de mesurer au-delà des questions technologiques, au-delà des questions politiques, la place prépondérante du droit, en fait. En vous lisant, je pensais au livre très important de Katharina Pistor aussi, Coding the Capital, qui montre comment la financiarisation du capitalisme a été rendue possible d'abord et avant tout par des juristes, en fait, qui ont inventé des formules, des manières de dériver les produits, etc. Et c'est exactement la même chose avec l'économie numérique telle que vous la décrivez.
Oui. Là aussi, je pense qu'on a parfois une représentation un peu faussée de l'histoire de ce capitalisme numérique. C'est-à-dire qu'on pense souvent que, effectivement, le droit n'a pas vraiment d'importance, que de toute façon, ces grandes entreprises technologiques n'en ont que faire, et que voilà. Et en fait, et puis que le droit est toujours en retard, finalement, on a l'impression que l'innovation précède le droit.
Sanctuariser des pratiques ou des usages.
Le droit arrive plusieurs années plus tard, laborieusement, pour essayer.
Alors que souvent, il précède, en fait.
Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, il précède. Et je vais vous en donner deux exemples très simples. C'est, imaginez, si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les questions de responsabilité des plateformes. Imaginez justement qu'en 1996, il n'y ait pas eu la section 230, mais qu'on ait pensé les grandes plateformes numériques sur le modèle des médias traditionnels. Est-ce que vraiment on aurait eu des grands réseaux sociaux commerciaux qui se seraient développés s'ils avaient été considérés juridiquement responsables de tous les propos délictueux tenus par les utilisateurs ? Je n'en suis pas sûr. Pour donner un autre exemple, qui là concerne plutôt les questions de propriété intellectuelle, enfin de copyright et de droit d'auteur, si une plateforme comme YouTube avait été juridiquement tenue responsable de toutes les violations de copyright qui se déroulent donc sur la plateforme du fait de ce que les contenus postés par ses utilisateurs, le business model aurait été un petit peu compliqué. Or, c'est pas ce qui s'est passé. On a eu en 1998 une loi aux États-Unis, là encore, le Digital Millennium Copyright Act, qui a sans rentrer dans trop de détails, créer un système dit Notice and Takedown qui, en gros, a permis à un acteur comme YouTube, quand il s'est lancé, de ne pas être inquiété trop gravement pour les violations de copyright, à condition que, quand même, il y ait une réaction et que les contenus contrevenant au copyright soient retirés par la plateforme dans un délai raisonnable.
Et si on avait eu un autre rapport, je veux dire, du côté progressiste et du côté de la critique à la question de la propriété privée intellectuelle en particulier et des droits d'auteur, d'un côté, et si d'autre part on avait eu une volonté politique en ce sens, de politique culturelle, on pourrait parfaitement imaginer que dans la deuxième moitié des années 1990, le ministère de la Culture et de la Communication en France décide de créer une plateforme du son, qui soit une plateforme qui diffuse des podcasts, ce qui allait devenir des podcasts de la radio, mais aussi qui soit le Deezer ou le Spotify de service public, en fait, estimant que, de la même façon que quand la radio a été créée, à un moment, les États se sont dit il faut qu'il y ait une radio de service public ou une télévision de service public, il aurait pu y avoir un Internet de la musique du service public. Après tout, cette maison Radio France avait toutes les compétences techniques, musicales, juridiques pour clearer les droits, pour mettre tout ça en œuvre. On a manqué d'une volonté politique, on a manqué aussi probablement d'une clairvoyance, je dirais, quant à la forme de la critique, Sébastien Broca.
Oui, alors ce sont des sujets que j'aborde un peu moins, mais ce que vous dites est juste au sens où je pense que quand on fait l'histoire des 30 années écoulées, on voit aussi comment dire la part de contingence, les moments de bifurcation où finalement les choses auraient pu prendre une autre tournure. Et c'est vrai que, par exemple, ce qu'on connaît dans le monde de la culture avec Netflix, avec Spotify, avec Deezer, bon, ce sont des plateformes très récentes, et il y a eu un moment qui n'est pas si éloigné où il y avait des gens qui pensaient pouvoir, enfin, il y avait une autre issue possible, c'était de légaliser le partage non marchand des œuvres en ligne et de mettre en place ce qui s'appelait à l'époque la contribution créative pour essayer de financer la création tout en permettant aux internautes de partager librement des œuvres en ligne. Finalement, bon, évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé et finalement, la sortie de cette phase qui a duré quelques années, enfin, même un peu plus que ça, au début des années 2000, où on a eu cet essor de ce qu'on appelait le piratage ou du téléchargement illégal, bon, ça a été en fait de mettre en place de nouveaux acteurs marchands, de nouvelles plateformes pour ramener les internautes dans la l'égalité en quelque sorte. Mais évidemment, il y avait d'autres voies possibles, mais ce sont peut-être des occasions manquées.
Je voudrais revenir sur, pour terminer cette première partie, sur la comparaison entre les États-Unis et la France, parce que on voit bien, vous le décrivez, ces acteurs français existent, mais au fond, on voit dès le départ que leur marge de manœuvre est extrêmement limitée. On a le sentiment que tout s'invente véritablement sur la côte ouest des États-Unis et que c'est très compliqué pour, même s'il y a une détermination, ce qui n'a pas toujours été le cas, pour faire les choses radicalement différemment, par exemple dans d'autres pays, les chances de succès de ce type d'initiative auraient probablement été très faibles.
Oui, et puis je pense que ce que montre aussi la comparaison, c'est que de la même manière qu'il y a... Il y a une culture numérique globale du point de vue des acteurs dominants, et donc des grandes plateformes américaines, ça on le sait tous, mais il y a aussi une culture numérique critique qui est globale. Et c'est vrai que du point de vue de la critique aussi, la centralité des États-Unis apparaît très forte, hein, et c'est par là qu'on commençait l'émission tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup frappé. Et en même temps, malgré tout, moi j'ai trouvé ça intéressant de comparer des acteurs américains et des acteurs français, parce qu'on voit aussi par exemple que pour n'en prendre qu'un exemple, hein, l'équivalent français de l'Electronic Frontier Foundation dont nous parlions tout à l'heure, ça serait une association comme la Quadrature du Net. Alors elle est beaucoup plus petite, elle a des moyens beaucoup moins importants, mais en même temps elle est beaucoup plus indépendante, c'est-à-dire que l'Electronic Frontier Foundation a toujours accepté justement des financements des acteurs qu'elle est parfois censée combattre, comme Google et Meta, Facebook. La Quadrature du Net n'a jamais rien fait de tel, alors même que quand je les ai rencontrés, interviewés, certains m'ont dit qu'ils avaient été approchés par Google, qui leur a proposé de les financer, et ils ont refusé. Donc on a aussi, en France, malgré tout, parfois des cultures militantes qui sont un peu différentes et qui, en tout cas par certains aspects, sont peut-être aussi plus indépendantes des grands acteurs, même si ça les rend aussi sans doute plus marginales.
Au fond, votre livre permet de comprendre comment on en est arrivé là, c'est-à-dire avec la réélection de Donald Trump et le soutien des grands acteurs de la big tech américaine, du côté de la Silicon Valley en particulier. Ça permet de voir peut-être sur quelle base une autre forme de critique peut se réarmer autrement. Je pense qu'elle commence à voir le jour et de façon paradoxale. On va écouter, pour une fois, la musique a un lien avec le débat dans l'émission. Un single que Neil Young vient de sortir, Let's Roll, dans lequel, de façon assez paradoxale, il rend hommage à Chrysler et à General Motors. Et il y a cette ligne, If you're a fascist, then go and buy a Tesla.
France Culture. La suite dans les idées. Sylvain Bourmeaux.
Alors, petite erreur, ça c'est le morceau de 2002, Let's Roll. Le nouveau morceau de Neil Young, c'est Let's Roll Again. Je vous laisse le découvrir, il suffit de taper sur internet, vous allez le trouver. Il vient juste d'être mis en ligne. On continue de parler de la Silicon Valley avant de venir à ces questions de justice dans la rubrique actualité avec Ariel Limi qui nous rejoindra. On continue de parler de la Silicon Valley et plus largement de l'Ouest américain avec vous, Stéphanie Solinas. Vous êtes artiste. Vous avez publié il y a quelques années, 2022
ou 2020, Septembre 2023.
Oui. Dans la collection Fiction et compagnie au Seuil, Lettre Plus, itinéraire pour devenir soi-même, qui est au fond une sorte de reportage littéraire, artistique, sur ce territoire dont on a parlé un petit peu, un peu plus large que simplement les quelques blocs de San Francisco et de la Silicon Valley. Mais même question, d'une certaine façon, qu'à Sébastien Broca, qu'est-ce qui vous a conduite là-bas, à la rencontre de ces gens guidés, un peu illuminés par des utopies, beaucoup celle de la question de l'immortalité, mais pas que, parce qu'on croise, je le disais tout à l'heure, des acteurs de l'Internet, on croise des gens qui croient vraiment que les plateformes allaient permettre des rencontres beaucoup plus intéressantes qu'autrement dans votre livre. Qu'est-ce qui vous a conduit là-bas ?
Alors, je dirais qu'il y a deux raisons principales qui ont fait que mes yeux se sont tournés sur ce territoire. D'abord, janvier 2015, la publication de la première lettre ouverte en lien avec l'intelligence artificielle, signée à l'époque par Stephen Hawking, par Elon Musk déjà, et qui présentait l'arrivée de cette intelligence artificielle, qui promettait ses bienfaits incommensurables pour l'humanité, mais également qui pointait que peut-être elle pouvait également contenir la possibilité de la fin de l'humanité. Donc évidemment, moi en tant qu'artiste depuis plus de 20 ans, je m'intéresse, disons, à ce qui constitue nos identités, entre visible et invisible, entre science et croyance, et évidemment j'ai eu envie de m'intéresser à cette part ambivalente de nos identités à venir, et donc j'ai fait du territoire de la côte ouest américaine, pionnière donc dans l'intelligence artificielle, mon terrain de recherche. Mais également, le fait que ce terrain américain soit aussi le terrain du dollar américain et du billet d'un dollar américain qui présente en fait sur l'une de ses faces un triangle coiffé de l'œil qui voit tout. Un triangle qui nous dit que toute construction, que ce soit une construction physique, concrète, ou que ce soit une construction plutôt de l'ordre du spirituel, ne peut être achevée sans une certaine forme de transcendance. Et en fait, cette élan mystique logé au cœur même du matérialisme, qui est ce billet d'un dollar américain, me montrait que ce territoire de la côte ouest américain était exemplaire par rapport aux perspectives de développement qu'il offrait à l'humain. Est-ce qu'on se développe justement, est-ce qu'on s'augmente avec l'intelligence artificielle, avec la cryogénisation, avec repousser les frontières de la mort, le transhumanisme, le biohacking, ou est-ce que l'on s'augmente avec une forme d'augmentation de développement personnel ou d'augmenter le potentiel humain, pour reprendre en fait les termes du New Age qui sont nés sur le même territoire exactement que la Silicon Valley.
Vous dites entre science et croyance, et on voit bien que ce contraste vous intéresse parce que c'est ce même petit territoire qui voit à la fois de grands scientifiques rationnels travailler et puis des gens totalement illuminés qui vont donner le New Age en particulier.
Absolument, et vraiment ce territoire-là soit le berceau commun de ces deux propositions m'interrogeait. Et après plusieurs années donc de recherche et d'enquête sur ce territoire, ce qui m'est apparu, c'est qu'en fait ces deux éléments sont évidemment beaucoup plus imbriqués, et en ça vraiment je trouve des raisonnements par rapport au livre de Sébastien Broca, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui c'est la même chose, c'est deux faces de la même
culture.
Médaille quasiment.
La même
culture, exactement.
Donc cette culture, vous avez décidé de la saisir notamment avec des mots. Je dis notamment parce que votre travail et ce projet de recherche, ce programme de recherche artistique, il continue. Il y a une exposition actuellement à Paris dans une galerie qui est encore un jalon de ce travail qu'on peut voir jusqu'au mois de juillet. On mettra les références sur la page de l'émission. Mais vous avez décidé, pour le livre que je citais, de le faire non pas avec des images en mouvement ou fixe, comme vous le faites habituellement, mais avec des mots et en trouvant une forme narrative particulière. Ces deux livres qui assument leur choix de narration, des narrations très très différentes, mais vous la mettez en scène véritablement avec ce personnage de la narratrice dès le départ. Stéphanie Solinas.
Oui, ce livre, pour moi, je le considère vraiment comme à la croisée. Enfin, c'est à la fois un essai pour moi, à la fois un récit et à la fois une pièce plastique autour, voilà, de cette question de l'humain augmenté. Et notamment parce que la question de l'augmentation, elle prend des formes plastiques, en fait. C'est la question du la forme du réseau qui a dirigé la construction même du livre, en fait. D'une part, la forme d'un territoire qui devient je parle d'un atlas routier quand je parle de ce livre, parce que un atlas routier, c'est un territoire qui devient un livre.
Et oui, vous citez Borges d'ailleurs sur le sujet.
Par exemple, voilà, exactement. Et quand un territoire devient un livre, quand on suit une route, parfois la route que l'on suit se trouve sur la page qui suit, et parfois on est obligé de sauter plusieurs pages pour retrouver sa route. Et en fait, le livre, il est vraiment construit avec ce principe de saut, de navigation, d'augmentation, de lien. Évidemment, cette référence plastique au fonctionnement de l'Internet m'intéressait. Et je trouve que c'est une forme, la forme du réseau est une forme qui permet de penser le monde contemporain.
Il y a quelqu'un à qui j'ai beaucoup pensé, Sébastien Brocard, en lisant le livre de Stéphanie Solinas, c'est Stuart Brand, évidemment, parce que s'il y a un homme réseau, c'est lui. Il a rien fait, et en même temps, il était toujours là, quoi qu'il se passe, la première démo, le premier, enfin. Et au fond, ce livre, c'est un peu dans le sillage du Whole Earth Catalog, c'est-à-dire un almanach que Stuart Brand a inventé pour les hippies, parce qu'on peut pas dire qu'il était hippie lui-même, c'est plus compliqué que ça, il venait du monde de la côte est, des artistes performeurs américains, mais au fond qu'il est allé vendre dans toutes les communautés avant d'inventer cette idée de communauté numérique qui fondera le web, en fait. Mais je vois là une filiation très directe.
Ah oui, oui, mais c'est toute cette histoire qui, comme vous citiez Fred Turner tout à l'heure, hein, qui a été très bien racontée par Fred Turner, donc dont l'ouvrage était sous-titré de la contre-culture à la cyberculture. Donc c'est toute cette histoire-là. Et je voulais aussi rebondir sur ce que disait Stéphanie à l'instant, en parlant de deux faces de la même culture, et c'est vrai que je trouve qu'on le voit depuis quelques années en matière d'IA. Vous parliez de ce texte de 2015, bon, il y en a eu d'autres hein, depuis l'avènement de ChatGPT, des textes extrêmement alarmistes, catastrophistes sur le risque existentiel que représenterait l'IA, et pour un certain nombre de personnes, mais auxquelles je m'associerai, en fait, le catastrophisme en matière d'IA n'est que l'envers des discours promotionnels des grands acteurs de la tech. Le catastrophisme est une forme de publicité gratuite pour l'IA, ou une forme, en tout cas, de, peut-être pour le dire plus justement, une manière de crédibiliser les promesses, souvent extrêmement, comment dire, peut-être déraisonnables, ou en tout cas hyperboliques, qui sont faites par les grands acteurs de l'industrie, qui nous disent que l'IA va pouvoir, qu'on va atteindre ce qui s'appelle AGI, et donc une intelligence artificielle générale, que l'IA va pouvoir résoudre tous les problèmes du monde, à peu près, hein, depuis le réchauffement climatique jusqu'aux inégalités. Voilà. Et en fait, le discours catastrophiste est une manière d'avaliser la puissance de ces outils, et ce sont les voilà. Donc c'est la face plus et la face moins, pour le dire simplement, mais ce sont à mon avis les deux faces d'une même pièce, et c'est pour ça que pour moi qui m'intéresse à la critique, au discours critique, je suis un peu réservé face à ce type de discours catastrophiste qui à mon avis accorde trop de crédit aux proclamations hyperboliques des acteurs de l'industrie et nous détourne aussi des problèmes très actuels que posent ces dispositifs qui ont finalement peu à voir avec l'avènement dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans d'une intelligence artificielle consciente d'elle-même et qui risquerait de tous nous égouiller.
Oui, on est loin du catastrophisme éclairé, cher Jean-Pierre Dupuis. C'est plutôt le catastrophisme marketé, en quelque sorte, que décrit Sébastien Brocard à l'instant, Stéphanie Solinas. Je voulais revenir sur le dispositif aussi de votre livre, qui est un dispositif de rencontre. Au fond, tout ce qui a été décrit comme évolution, comme système, est incarné par des personnages quand même. Vous êtes allé à leur rencontre. Sébastien Brocard aussi un peu à sa manière. C'est pas possible d'écrire l'histoire sans ces acteurs, sans ces personnes qui jouent des rôles importants au fond.
Oui, et cet aspect-là, il était vraiment très important pour moi. Alors peut-être que c'est une filiation que je n'avais pas identifiée avec Stewart Brand, une forme de do-it-yourself que j'aurais tenté d'incarner, parce qu'il y a vraiment cette idée de mettre mon corps en jeu, c'est-à-dire qu'il était très important pour moi d'aller sur ce territoire, de me perdre au volant de ma voiture en
cherchant... Et dans des interactions de face à face.
Exactement.
À ce moment même où elles ont tendance à se à mettre à distance.
Oui, donc d'être, de faire l'expérience de ces rencontres, de mettre mon corps en jeu dans les rencontres par rapport à l'expertise aussi de mes différents interlocuteurs. Et pour moi, c'est une manière de travailler qui me permet de transmettre, enfin d'aller chercher en fait une forme de savoir horizontal et de vouloir aller interroger des personnes et chercher leurs connaissances et de trouver ensuite moi en aval des manières de plastique en fait, que ce soit par le texte ou par des pièces plastiques, de poursuivre, de transmettre en fait ces informations et de continuer en fait à être dans un échange horizontal, à avoir en fait j'y vois une forme de à la fois de résistance dans le sens de démystifier la technologie, parce que je trouve que on a souvent tendance à nous mettre en dehors. Vous parliez Sébastien Broca de la responsabilisation qui n'est pas possible en fait par rapport au consentement, de nous demander en fait de se positionner par rapport à ça, de nous mettre en dehors en fait de nos responsabilités, alors qu'en fait la société qui nous est vendue par le récit de la ouest américaine n'est pas encore arrivée. Il y a beaucoup de décisions que nous devons prendre aujourd'hui pour déterminer notre futur. Et je crois que c'est à la fois dans ces échanges pour aller chercher les informations et dans les échanges activés dans des formes performatives, notamment la forme jouable du livre
oui, alors
L'être Plus,
justement, voilà, peut-être
qui permet de penser en commun. En fait.
Un mot pour terminer sur cette exposition dont je parlais tout à l'heure, qui a lieu actuellement dans la galerie Jean Quenta Gauthier, dans le 15e arrondissement à Paris, où c'est cette forme jouable dont vous parlez un peu dans le livre, que vous explorez davantage à travers des œuvres plastiques.
Oui, en fait, là, cette forme jouable, c'est vraiment de manière littérale reconnaître, en fait, ne pas prendre des inventions récentes pour des vérités éternelles, reconnaître que, en fait, nous jouons à un jeu à partir de règles sur lesquelles nous venons de nous mettre d'accord, et les règles de ce jeu sont fondées sur les faits et les croyances qui traversent, en fait, ce territoire, pour nous permettre, en fait, de les identifier et de se positionner par rapport à ça. C'est une forme de pensée collective, de se mettre à 7, puisque c'est pour 7 joueurs voyageurs qui ont 122 minutes pour obtenir l'immortalité et qui rencontrent justement les différents interlocuteurs que je suis allée interroger dans la Silicon Valley.
Merci Stéphanie Solinas, cette exposition donc jusqu'au 26 juillet à Paris, et puis ce livre L'être plus, itinéraire pour devenir soi-même, aux éditions du Seuil, en fiction et compagnie, et toujours aux éditions du Seuil, le livre de Sébastien Broca dont nous parlions aujourd'hui, pris dans la toile de l'utopie d'Internet au capitalisme numérique. On trouve les références bibliographiques sur la page de l'émission.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
On a un petit peu parlé de droit aujourd'hui. On va continuer à parler plus franchement de droit encore avec vous, Ari Halimi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat et vous êtes également l'un des vice-présidents de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez conçu pour la Ligue des droits de l'homme, avec le théâtre de l'Europe, le théâtre de l'Odéon, et à l'occasion des représentations qui sont données dans ce théâtre aux ateliers Berthier à Paris, du dernier spectacle de Lorraine de Sagazan, Léviathan, une semaine d'événements titrés « Questions de justice » qui permet d'élargir sur ce spectacle. Mais peut-être il faut commencer par parler du spectacle, parce que j'imagine que c'est ça qui vous a donné l'idée et l'envie d'organiser ces ensembles de débats, de conférences, de rencontres, pour mieux faire connaître une réalité judiciaire dont elle s'est emparée pour imaginer Léviathan, qui est ce qu'on appelle la comparution immédiate.
C'est exactement ça, c'est une rencontre avec Lorraine de Sagazan, cet été, au moment de La Générale de Léviathan, cette pièce qui parle de cette justice d'urgence expéditive, une justice d'exception.
Qui n'est pas exceptionnelle, parce qu'elle est très pratiquée.
Qui devrait être l'exception et qui est devenue la règle, puisque normalement, on est jugé, on a du temps pour être jugé, on est convoqué, on peut voir un avocat, on peut consulter un dossier, et c'est ce qu'on appelle le procès équitable. Et qu'avec cette justice, qui est de plus en plus utilisée parce qu'il y a de moins en moins de moyens, parce qu'il y a un impératif de juger de plus en plus de personnes, eh bien, on a un reversement du principe et on a une justice qui est de plus en plus misérable, qui entraîne beaucoup plus de violence alors que la justice est là pour empêcher la violence sociale. Et donc, Lorraine de Sagazan a créé ce spectacle absolument magnifique qui part du réel.
Vous l'avez découvert alors qu'il était terminé, ce spectacle?
Je l'ai découvert à la Générale, sur proposition de Lorraine de Sagazan. Et donc, elle est partie de cette réalité qu'est la comparution immédiate pour créer une fiction. Parce que c'est une fiction, hein, ça n'est pas du tout... on a d'ailleurs une scénographie incroyable avec des masques, pour ceux qui le verront. Et d'ailleurs, le masque est peut-être ce lieu d'origine entre le théâtre et le droit, puisque ça vient du latin personae, et que l'on voit que la personne dans le droit, qui est une institution juridique, le masque est vraiment cette symbolique qui réunit le théâtre et le droit, et on la retrouve hein, dans les réflexions qui sont celles de la pièce Léviathan.
Donc cette pièce, elle a été créée à Avignon, c'est ça, l'an dernier, en tout cas elle a été programmée officielle, puis elle a tourné depuis, on a pu la voir un peu dans différents théâtres en France. Là, elle arrive à l'Odéon. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de saisir cet ensemble de représentations pour proposer des formes diverses dont on va parler, mobiliser des juristes, des professionnels du droit pour encore mieux faire connaître cette réalité qui, loin d'être une exception, et représente aujourd'hui, je ne sais pas si on a les statistiques d'ailleurs, mais des procès, enfin ça représente une part très importante des procès.
Oh, pratiquement 50% des audiences pénales, et donc des personnes qui sont jugées après une garde à vue, envoyées au dépôt du palais de justice et envoyées directement devant un juge.
50% le sont dans une procédure exceptionnelle, entre guillemets.
C'est ça. Et donc, beaucoup d'incarcération. Une procédure qui est 8 fois plus pourvoyeuse d'incarcération que d'autres procédures pénales. Une procédure qui maltraite, y compris les victimes. Qui sont souvent absentes du procès pénal, qui n'existent pas dans le procès pénal, notamment dans les affaires de violence conjugale ou quelquefois de violence sexuelle qui sont traitées en comparution immédiate. Et donc, cette rencontre entre deux univers, puis d'abord, avant même le festival Question de justice qui va avoir lieu du 10 au 17, une rencontre qui s'est concrétisée par des débats dans tous les théâtres nationaux, les scènes nationales, les CDN, qui ont accueilli la pièce Léviathan, et donc on a organisé...
Vous êtes allé
avant,
dans beaucoup de ces endroits.
On a créé des débats avec les sections de la Ligue des droits de l'homme, avec les théâtres qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur, et ça a été d'ailleurs une expérience enrichissante pour tout le monde, que de réunir des professionnels du droit, des avocats, des magistrats, des comédiens, dont un comédien qui initialement était une personne qui avait été jugée et condamnée, pour ceux qui ont déjà vu la pièce, et puis après la nécessité d'aller plus loin, la nécessité de poursuivre cette réflexion, et le théâtre de l'Odéon, qui est pour cette année en tout cas l'accueil final de Léviathan pour cette saison, pendant un mois, puisque ça a commencé le 2 mai jusqu'à fin mai, du 2 mai jusqu'à fin mai, nous a offert à Lorraine de Sagazan une carte blanche et la possibilité d'organiser plusieurs choses. D'abord, des débats après la représentation, avec beaucoup de personnalités, d'intellectuels, de travailleurs sociaux, qui ont accepté de participer à ces débats sur la répression judiciaire, sur la comparution immédiate, bien évidemment, mais plus largement sur la question de l'abolitionnisme éventuel, beaucoup de perspectives judiciaires. Et puis, pas que ça, puisque le festival organise également des observations de comparution immédiate,
Alors là, c'est facilité par le voisinage, parce que, je disais, c'est aux ateliers Berthier, donc c'est cette deuxième lieu du théâtre de l'Odéon, qui est juste à côté du nouveau palais de justice de Paris.
Le lieu est très symbolique, on est sur le parvis, futur parvis Robert Badinter d'ailleurs, qui va être nommé ainsi. Un lieu avec une triangulaire, le tribunal judiciaire, la maison de l'avocat, et également les ateliers Berthier qui appartiennent au théâtre de l'Odéon. Donc sur ce parvis vont aussi avoir lieu des performances théâtrales avec des avocats en robe et d'anciens prévenus qui ont eux-mêmes été jugés en comparution immédiate, mais cette fois avec une temporalité différente. Et peut-être voir la différence entre cette justice trop rapide, trop maltraitante, et la possibilité de réinitier un jugement avec du public autour et avec le concours de la mairie de Paris qui a accepté évidemment que nous fassions cela sur le parvis. Des formations pénales également. Il va y avoir une formation pénale. Alors, je crois que tout est complet malheureusement, mais il va y avoir une formation pénale le samedi 17, sauf erreur de ma part. Et puis c'est débat après la pièce. Voilà, on espère que beaucoup de gens viendront. Et l'idée de départ, c'est de mener aussi une bataille culturelle. C'est-à-dire de revenir sur quelque chose qui est invisible, quelque chose dont on ne parle plus, quelque chose qui maltraite beaucoup, beaucoup de gens, qui est celle de la comparution immédiate, parce que on croit véritablement à la Ligue des droits de l'homme, et avec l'Odéon, et avec Lorraine de Sagazan, que c'est en repartant des choses dont on ne parle plus, des choses qui paraissent impossibles à remettre en cause, que la bataille culturelle se mène. Et donc peut-être que si l'on arrive à remettre en question la question de la comparution immédiate, la faire revenir à son état d'exception, comme elle aurait dû l'être, et non plus de règle en matière pénale, peut-être qu'on arrive justement à mener cette bataille culturelle qu'on a oublié de mener depuis trop longtemps.
L'un des paradoxes, et vous parliez d'invisibilité, en même temps, c'est que ces comparutions immédiates, elles sont, c'est le principe de publicité de la justice aussi, ouvertes au public. Et donc, vous avez prévu, peut-être vous pouvez revenir là-dessus, Ariel Halimi, vous avez prévu d'accompagner des groupes, assister à des comparutions immédiates. C'est évident que c'est pas un spectacle, c'est la justice qui est rendue, mais il y a un dispositif. Et quel type d'accompagnement vous avez prévu avant, après, avec ces gens qui vont, pour la première fois, voir ce qu'il en est?
Mais c'est d'ailleurs la chose qui réunit et qui met en œuvre, qui rejoint le théâtre et le droit, c'est la publicité, justement, et la transparence. Sauf que y a pas forcément beaucoup de gens qui viennent voir les audiences et on sait que le regard qui est porté sur les juges peut influencer la façon dont on juge et notamment le respect qui est dû aux prévenus ou aux victimes, la façon dont on leur parle, la façon dont ils sont jugés. C'est justement ça le principe de la publicité des débats depuis la Révolution française. Et donc la Ligue des droits de l'homme a organisé depuis très longtemps dans un certain nombre d'endroits en France ce qu'on appelle les observations de comparution immédiate, c'est-à-dire des aller à l'audience qui est publique, à laquelle tout le monde peut assister, et structurer cette observation avec un questionnaire qui est similaire sur toute la France, afin de savoir si et de comparer la façon dont cette justice est rendue, la façon dont on parle donc aux prévenus, la temporalité de l'audience, une succession de questions qui permettent d'être comparées sur toute la France. Et là, le Théâtre de l'Odéon a accepté que la Ligue des droits de l'homme organise deux observations de comparution immédiate auxquelles les spectateurs de l'Odéon ont pu s'inscrire. Il y a deux séquences, alors là c'est complet, hein, mais évidemment il y a d'autres observations de comparution immédiate qui peuvent être organisées. D'autres personnes peuvent rejoindre ces observations de comparution immédiate en consultant le site de la Ligue des droits de l'homme. Et donc voilà, c'est un travail commun entre l'univers du théâtre, l'univers de la liberté et des droits humains, à un moment où elle semble de plus en plus entravée et réduite. Et c'est pour ça que cette initiative est importante et on espère qu'elle puisse être pérennisée l'année prochaine.
Comme vous le disiez, Ariel Halimi, vous avez déjà participé à de très nombreux débats. En un mot ou en deux mots, quelles réactions sont les plus fréquentes, reviennent de la part des gens qui viennent assister à ces débats?
La plupart du temps, les gens pensent que ce qu'ils voient sur scène est une dramatisation de la réalité des comparutions immédiates. Quand ils assistent aux comparutions immédiates, ils se rendent compte à quel point il y a une euphémisation de la maltraitance judiciaire que l'on peut avoir dans les audiences de comparution immédiate. Et ça, cette comparaison, cette mise en perspective est extrêmement importante pour se rendre compte de ce que sont les comparutions immédiates aujourd'hui.
Merci Ariel Halimi. Question de justice, un festival donc du 10 au 17 mai au Théâtre de l'Europe, Odéon Théâtre de l'Europe, aux ateliers. Bertie, on trouve les références sur la page de La Suite dans les idées où vous pouvez également écouter l'émission et vous abonner au podcast.